Salut tout le monde, ici Jérémy Filosa. Bienvenue à une autre édition de Sortie de zone ou Sortie pour le coach. Cette fois-ci, cette semaine, malheureusement pour Claude Julien, il a perdu son emploi. On a tellement de choses à dire depuis lundi. S'en est passé des choses dans le monde du Canadien de Montréal. Donc, on va passer une grande partie de l'émission d'aujourd'hui à parler du tricolore. Et ensuite de ça, bien, on aura quelques très petits sujets du côté de la Ligue nationale. On vous présente immédiatement les panélistes pour l'émission d'aujourd'hui. Guillaume Lefrançois de La Presse qui est ici en studio avec nous aujourd'hui. Salut Guillaume.
Salut Jérémy.
Simon-Olivier Lorange de La Presse aussi. Salut Simon-Olivier.
Salut.
Et Jérémy Rainville du 98.5. Salut mon Jer.
Salut Philo.
Bon les gars, j'ai essayé d'étaler ça. Il y a tellement de sujets que je ne savais pas lequel mettre en premier, mais je pense qu'il faut quand même revenir sur les plus récents incidents. Donc, le match d'hier, on va appeler ça un incident parce que c'était pas très, très spectaculaire, encore une fois. Écoutez, les gars, je pense qu'on s'attendait tous à une sortie positive, explosive du Canadien. C'est ce qui arrive normalement quand un nouvel entraîneur arrive. Ça dure, des fois, ça dure un petit bout de temps, des fois, ça dure un petit peu moins, mais on s'attendait à quelque chose de différent. Et pourtant, on a vu pas mal dans l'ensemble, là, on va en reparler, la même équipe qu'on a vue là, depuis à peu près 3 semaines. Guillaume, je te laisse commencer là-dessus. Déçu par rapport à ça?
Ben en fait, on l'a vu, le changement. Le problème, c'est que le changement a duré peut-être 25 minutes avant que le naturel revienne au galop. Mais moi, je dirais que l'aspect qui me préoccupe le plus, c'est la discipline ou l'indiscipline, appelez ça comme vous voulez. 4 pénalités encore et pas toutes des bonnes pénalités. Là, je sais bien que les arbitres n'ont pas aidé, mais quand même, pas toutes des bonnes pénalités. Au lendemain où Marc Bergevin a vraiment insisté là-dessus, ça semblait visiblement faire partie des points sur lesquels il voulait insister. Donc ça, d'un côté, et puis de l'autre côté, ben également l'incapacité justement à provoquer des pénalités à l'adversaire. Je sais que les arbitres encore là ont manqué un bâton élevé, mais quand même, ça reste une équipe qui est à point, qui est agressive, qui force l'adversaire à faire des erreurs, ben va forcer l'adversaire à écoper de punition. Ouais. Et puis ça, ben c'est ça, cet aspect-là est resté ce qu'il était. Mais en même temps, regardez, Dominique Ducharme n'a pas encore eu la chance de diriger un seul entraînement.
C'est sûr. Non, c'est encore très, très tôt. Mais en même temps, tu parles des arbitres. Hier, je pense avoir vu à un moment donné là, vraiment un double échec. Je pense c'était Edmondson qui avait asséné un double échec à un adversaire qui s'est retrouvé la face dans la bande et il n'y a pas eu de punition là-dessus. Donc, ça va d'un côté comme de l'autre. Les gars, un peu déçus, Simon-Olivier, du fait qu'hier, on n'a pas eu, disons, cette étincelle qu'on espérait?
Ben, c'est décevant pour Dominique Ducharme, dans la mesure où il devait, mais assurément, il espérait que ça commence et que ça finisse mieux pour lui. Mais un peu comme Guillaume, je suis pas complètement surpris dans la mesure où ben, c'est la même équipe que 24 heures avant, ouais, qui va pas bien. J'écoutais le point de presse de Paul Maurice après le match, qui est un des entraîneurs les plus intéressants à écouter dans la Ligue nationale. Puis il parlait de son équipe qui surmontait un déficit de 0-2. C'est une habitude que les Jets ont développée cette saison de remonter des déficits. Puis il faisait remarquer, on n'est plus une si jeune équipe, puis on est très calme sur le banc. Il voulait pas utiliser patience, mais c'est ça, beaucoup de calme par rapport aux situations. Mm-hmm. Et je trouvais ça intéressant parce que ça résonnait directement sur le Canadien où, ben, ça existe pas présentement, cette situation-là, dans la mesure où le Canadien est extrêmement fragile. Ouais. Les Jets hier ont marqué, et dès leur premier but, même si le Canadien marquait encore après, il y avait quelque chose qui avait changé et on s'en est jamais remis. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être prendre du temps, justement, à corriger, à guérir, si on veut, dans cette équipe-là.
Jérémy, là-dessus?
Écoute, déception. Déception de voir que tout ça se poursuit, cette longue séquence négative se poursuit chez les Canadiens. J'ai l'impression que c'est comme une bonne chicane de famille et qu'on ne se souvient plus qui a dit quoi au début. Tu sais que ça va pas bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ça n'arrête plus, puis t'en rajoutes, puis t'en rajoutes, puis t'en rajoutes. Je pense que, tu sais, quand Dominique Ducharme me dit « c'est un nouveau départ », il va falloir mettre ça vraiment à nouveau départ. T'sais. Là, présentement, ce qui arrive, c'est que tu as un gardien de but qui fait pas le boulot. Ouais. Tu as Carey Price qui fait pas le boulot comme gardien de but, comme joueur franchise chez le Canadien. Tu as des défenseurs qui n'arrachent, qui sont immobiles, qui se font brûler à plusieurs reprises. Tu as des attaquants qui viennent pas souvent supporter les défenseurs, qui tentent à tricher vers l'attaque. Fait que donc, tout ça part d'en arrière. Tout ça part de Carey Price. Moi, je vous dis, là, puis je veux pas qu'on... Tu sais, c'est pas l'histoire de dire qu'il faut que Carey Price devienne le meilleur de la Ligue nationale. Non, tu veux juste avoir un bon gardien de but. Puis là, présentement, ça ressemble pas à ça. Nous livre pas les performances à la hauteur. Fait que donc, ça part de lui. Après ça, ça part des défenseurs, ça part des attaquants. Mais si ce club-là arrive à se sortir de ce trou de bouette, ça va être tout un club de hockey. S'ils sont capables de trouver des solutions après ça, après ce qu'on voit présentement, là, parce qu'hier, c'était, écoute, c'était la débandade totale. Ça a commencé très bien. Mais même quand on sentait que là, c'était positif, tu voyais que c'était accroche.
Exact.
Les passes, c'était pas ses palettes. Oui. Les gars tombaient. Tu sais, c'était pas charmant, là, ce qu'on a vu, même quand non. Ça allait bien, là. Mais tu disais, au moins, l'intention est là. Après, l'intention est tombée. La chaîne a débarqué. Et là, tu te ramasses, tu te fais battre contre les Jets quand tu es devant 3-1 dans le match. Vraiment, si ce club-là arrive à sortir de ça, ça va être tout un club de hockey.
Ben, écoute, t'as raison de le mentionner parce que même, tu sais, je vais prendre l'exemple du but de Tatar, le troisième but, OK? Le Canadien a toutes sortes de difficultés à s'installer. Puis un jeu bousillé. Mais là, Nathan Beaulieu offre, on peut dire, un cadeau au Canadien.
Nate the Great.
Et écoute, à ma grande surprise, on se retrouve avec deux gars qui foncent au filet, Kotkaniemi et Tatar, alors que ça devait pas être parce que jusqu'à ce moment-là, le Canadien se tirait tout seul dans le pied. Et là, ben, les Jets offrent un cadeau, mais on dirait que c'était un but inespéré, inattendu, un but en avantage numérique.
Oui, puis des buts en avantage numérique, ça se marque jamais comme ça.
C'est exactement ça.
C'est la plus belle preuve que c'était un peu un coup de chance.
C'est un flou, là.
Un cadeau de l'adversaire, c'est ça comme vous voulez. Donc, c'est ça. Cela dit, pour ce qui est du jugé de l'avantage numérique, il est encore tôt parce qu'à part ça, il y a seulement eu un seul autre avantage numérique et c'est rien passé du tout. Encore là, ben regardez, Alex Burrows aujourd'hui, vendredi, une première chance de travailler avec ce groupe-là. Donc, on verra ce que ça donne. Mais c'est ça, c'est encore une fois les mêmes problèmes qui sont restés parce que c'est ça, c'est la même équipe.
Ben, c'est ça. On va en reparler tout à l'heure de c'est la même équipe parce qu'on va faire certaines références aussi à l'année dernière où il y a plusieurs choses qu'on voit cette année qu'on retrouvait aussi l'année dernière. Mais les gars, avant de poursuivre sur le match d'hier, il faut parler absolument du congédiement de Claude Julien. Je veux dire, il y a 3 semaines, les gars, là, on était ici, là, on enregistrait un podcast et le Canadien rentrait dans sa fin de semaine avec. Ils étaient premiers dans la Ligue. Premiers! Et si quelqu'un nous avait dit à ce moment-là que Claude Julien va être congédié dans 3 semaines, il n'y a personne ici qui y aurait cru. C'est incroyable comment les choses changent rapidement et surtout, les attentes changent tout.
Mais oui, si on prend ce moment précis où le Canadien était premier et où tout allait bien. En même temps, si on recule juste 3 semaines de plus, au tout début de la saison, il faut se rappeler quand même qu'il y avait une certaine pression sur Claude Julien pour 2 raisons. Premièrement, parce que Marc Bergevin avait quand même fait son travail à l'automne, ouais. en ajoutant des renforts, des joueurs de bonnes embauches, un bon gardien numéro 2. Et d'un autre côté, parce que Claude Julien arrivait en avant-dernière année de contrat, ce qui est tout le temps un terrain glissant, pas dangereux pour un entraîneur. Donc, disons qu'il y avait une certaine obligation de résultat. Puis l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Marc Bergevin, quand il avait congédié Michel Therrien en 2017, le Canadien était également premier de sa division. Je pense que c'est maintenant très clair. Là, Bergevin, peu importe le classement, je pense que s'il sent que
c'est la tendance qui compte.
C'est ça exactement. C'est plus la tendance qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que je suis pas nécessairement tombé en bas de ma chaise, là, même si effectivement, 3 semaines plus tôt, ça semblait pas partir.
Simplement pour vous dire que, tu sais, on a connu un bon début de saison, mais maintenant, la mauvaise séquence est pratiquement aussi longue que la bonne. Parce qu'en début de saison, les 10 premiers matchs, le Canadien était tout feu, tout flambe. Là, ça fait 9 matchs qu'on en arrache. Fait qu'on a quasiment... La période difficile est maintenant pratiquement aussi longue que la bonne période du début de la saison. Jérémy,
Philo, moi, je veux dire, puis je sais pas, Guillaume et Simon-Olivier, comment vous allez embarquer là-dedans, mais tu sais, j'ai comme le goût de lancer un message à tout le monde. Autant qu'en début d'année, là, c'était rendu que Petrie, c'était le Norris, Bergevin, c'était le GM de l'année, puis tu sais, c'était le club depuis longtemps qu'on voyait chez les Canadiens qui avait quelque chose d'intéressant. Autant que là, je veux dire, c'est clair que c'est pas une question d'effectif, c'est une question, c'est mental, c'est de la psychologie, là, présentement. Là, la panique est dans ce club-là. Fait que donc, tu sais, attendez avant de dire qu'ils sont vraiment pourris. Moi, je pense que là, présentement, ils jouent pas bien. C'est clair qu'ils jouent pas bien, là. Mais si ce club-là se place, ça sera un bon club de hockey. Puis là, c'est pas parce que mon jupon du Canadien dépasse. Non, c'est un alignement sur l'alignement, sur papier. C'est un bon club de hockey. Est-ce qu'ils seront capables de le faire fonctionner? Je le sais pas. Mais clairement, c'est pas aussi bon que ce l'était au début, puis c'est pas aussi pire que ce l'est présentement.
Mais on dit souvent ça depuis une couple d'années. Simon-Olivier, je te laisse embarquer là-dessus. Là, mais ça fait une couple d'années que Canadien est... passe des séquences où ils sont imbattables, puis après ça, c'est des séquences où ils sont pas capables de gagner une game. C'est le jour et la nuit sont rarement en plein milieu. Je me trompe-tu? Ou...
Ben, peut-être en début de saison, ils sont rarement en plein milieu, mais au contraire, le reste de la saison, c'est une équipe assez moyenne. Hein, ils l'ont montré souvent.
Dans la moyenne, ils sont moyens.
Ouais, c'est ça. Dans la moyenne, ils sont moyens. Mais j'abonde à ce que dit Jérémy, parce que Rainville, dans le sens où quand tout le monde s'emballait, ben le Canadien avait des résultats supérieurs à son équipe. C'est-à-dire que je pense que le Canadien a une bonne équipe. Mm. Je pense pas que le Canadien a une équipe pour finir dans les meilleurs de la Ligue nationale ou qui est une des meilleures de la Ligue nationale. Fait que quand le Canadien était imbattable après 8 matchs, ben je pense pas que c'était l'identité du Canadien pour les mêmes raisons. Puis Jérémy l'a bien expliqué. Présentement, le Canadien qui est une équipe qui est plus capable de gagner, ben ce n'est pas le Canadien non plus. Mm. Le début de saison a montré. C'était tellement efficace, c'était tellement fluide. Tu sais, on voit ces jours-ci les Sénateurs d'Ottawa qui viennent de gagner 3 matchs de suite. C'est le party là-bas. Tu sais, ça paraît que c'est pas une équipe qui est surprise, entre guillemets, de gagner, qui n'est pas supposée gagner comme ça, alors que les Canadiens, ça marchait les buts, ça y allait en défense, ça y allait, tout fonctionnait. En fait, on sait que ça peut fonctionner. Maintenant, il faut juste trouver une manière de repartir cette machine-là. Et c'est terrible comment on a l'air de partir de loin de leur côté présentement.
Écoute, je me souviens, lors de notre première émission au mois de janvier, lorsqu'on a repris les activités ici à Sortie de zone, c'était dans la première liste de sujets. On avait parlé de la pression sur Claude Julien. On avait dit il est condamné à gagner. Avec tout ce que Bergevin a amené maintenant, il doit gagner parce que s'il ne gagne pas, il va perdre son poste. Et bon, c'est exactement ça qui est arrivé. Mais pour revenir au match d'hier, les gars... Encore une fois, la frustration de la troisième période, les pénalités, c'est pas la première fois, là, je viens de ressortir des statistiques, là, je recule au match contre Edmonton là, où le Canadien avait perdu 3-0, il y avait eu 3 pénalités consécutives en troisième période qui ne leur avaient jamais permis de vraiment se relancer. Pour moi, là, les pénalités dans une équipe, il y a 3 choses. Soit tu es incapable de contenir ton adversaire, donc t'accroches, tu retiens, peu importe, parce que t'arrives pas à rivaliser. Ça peut être la paresse, t'es paresseux, patiner, puis tu te dis, garde, je vais allonger le bâton, puis je vais l'accrocher. Ou c'est un manque de concentration où vraiment t'as pas la tête à la bonne place. Mais là, présentement, on a un problème à ce niveau-là. Et surtout que les unités spéciales ne fonctionnent pas très bien. C'est lequel de ces 3-là ou c'est un mélange des 3?
Ben c'est sûrement un peu des 3 parce que quand tout va mal en même temps, on peut prendre simplement le match d'hier chez Weber qui swing une rondelle en plein vol pour l'envoyer dans la foule.
Ben, c'est la 7e fois cette année déjà.
Ben c'est ça, c'est de l'inattention. Ça, c'est un manque d'attention aux détails. Je veux dire, si t'es chez Weber dans la situation qui est là, c'est évident que de la façon qu'il a joué ça, il y avait un très gros risque que la rondelle finisse. Dans les gradins. Tu le sais, puis ton équipe a déjà été punie 6 fois pour ça cette année. Donc ça, c'est ça. Je pense qu'on peut mettre ça dans la catégorie des erreurs d'inattention. Jeff Petrie qui va donner une mise en échec à la dernière seconde, je dirais que c'est aussi un peu de l'inattention. Je disais, la période était finie. Tout le monde savait là, que c'était les dernières secondes. T'avais pas besoin, même si, bon, on lui a donné une pénalité pour assaut. Est-ce qu'il y avait vraiment de l'assaut? Dur à dire. En même temps, il a levé un petit peu l'épaule près de la tête. C'était quand même risqué pour, encore là, si tu es conscient que la période est finie, tu ne vas pas donner cette mise en échec-là, puis tu évites de placer ton équipe en difficulté. Donc, il y a clairement une question, je trouve, d'attention aux détails, là, même si les autres points ont également joué.
Bon, en tout cas, je veux juste ajouter quelque chose. Quand j'entends Guillaume parler de manque d'attention pour chez Weber, entre autres, qui envoie la rondelle dans les estrades, je dirais OK, parfait. Tu as raison. Manquer d'attention parce qu'il a mal visé la bivitrine. Moi, je pense plus que c'est synonyme de tempête dans ta zone. Tu sais, ça, c'est sur le bord d'être désespéré. Quand Shea Weber vise la baie vitrée pour sortir la rondelle, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'options devant lui. Là. Ça veut dire qu'il tournait dans sa zone. Ça veut dire qu'à un moment donné, pas d'options. Sinon, s'il y avait un petit peu plus de temps, il aurait essayé en plein centre un Hail Mary en plein centre, mais ils l'ont pas fait parce que ça tournait dans leur zone. Mm. Je pense que c'est juste le résultat d'un mauvais jeu collectif. Et je parle des défenseurs, je parle des avants. C'est pour ça qu'ils sont là, c'est parce qu'ils sont pris. Ils sont pris, ils n'ont plus rien à faire. Floup, on envoie ça le plus haut possible pour pas que personne y touche. Ça s'en va dans les estrades. C'est pas la première fois qu'on le voit chez les Canadiens.
Non.
Tu sais, fait que en quelque part, puis là, je vous lance ça, là. Mais en quelque part, j'ai l'impression, puis c'est drôle parce qu'après le match hier, après la défaite du Canadien, j'en ai parlé avec Danny Dubé. Là, j'ai l'impression qu'on suranalyse, on fait de la micro-analyse sur un club qui est tout croche. C'est comme si tu essaies de parler avec un gars chaud. Tu sais, à un moment donné, ça marche pas. Attends qu'il dégrise, on va se parler après. Là.
Ouais, mais là, nous autres, faut qu'on fasse un show.
Ben oui,
là,
ben oui, je sais. Non, non, mais comprenez-vous le principe? C'est parce que il va en avoir de la chenoute là, jusqu'à demain matin. Ouais. Tu sais, on en a là, des pages, puis des pages, puis des pages. Mais présentement, le club, il est tout croche. Ouais. Le club, il est tout croche, là.
Ouais. Il y a quand même, j'ai l'impression, il y a quand même des tendances lourdes et le mot lourd n'est pas fortuit parce que je pense à Ben Chiarot qui présentement est complètement désorienté. C'est à se demander, tu sais, quand on disait tantôt la séquence de malheureuse est aussi longue que la bonne séquence. Je me souviens, dans les premiers matchs de la saison, j'avais écrit un texte parce qu'on avait parlé à Chiarot le matin sur à quel point la paire Weber-Chiarot était d'une efficacité hors pair. Mm. Et présentement, non seulement ça marche pas du tout, mais Chiarot prend des très mauvaises décisions. C'est 7 pénalités mineures au cours des 9 derniers matchs. C'est vraiment, on a l'impression, à un moment donné, c'était des punitions en fin de match, coup sur coup sur coup. Dans sa zone, c'est difficile. C'est des mauvaises décisions aussi en zone adverse. On sent que la transition, ça marche pas. Chiarot, c'est peut-être une des bonnes incarnations de ce qui marche pas chez les Canadiens. C'est comme s'il avait un peu désappris à jouer. Là. Je sais pas ce qui se passe avec lui.
Non, c'est vrai.
C'est assez impressionnant. Fait que je comprends l'idée qu'il ne faut pas suranalyser, mais quand c'est gros comme ça, je pense qu'il faut le pointer quand même.
Mais je me demande si Ben Chiarot n'est pas dû pour un petit match à la galerie de presse, les gars. Parce que. Jerry.
T'as brisé ton club en envoyant ta tare dans les estrades puis en passant Byron au balotage.
Mais non, mais je comprends. Chiarot, mais là, à un moment donné, sinon, envoyez-les sa patinoire, pas de bâton, parce que sinon, il n'est pas capable de le garder dans sa poche, maudite affaire.
Non, mais par contre, ce que Ducharme peut essayer, parce que je pense que ça serait audacieux pour un nouveau coach, un vétéran quand même établi des estrades. L'option qui lui reste à essayer, c'est de réorganiser les duos. Je pense que à ce point-ci, je disais Chiarot et Weber.
Non, ça marche pas.
C'était correct de leur donner un certain temps ensemble à cause de ce qu'ils ont accompli en série l'année passée, à cause de ce qu'ils ont accompli la saison dernière quand ça allait bien. Mais là, à un certain point, je pense qu'ils ont eu leur chance de se démontrer. Clairement, ça marche pas, du moins pour le moment. Quand les deux individuellement vont retrouver leurs aises, on peut bien essayer de les réunir, mais pour le moment, je pense que tu perds rien de les séparer et de jouer avec ça finalement, parce que le top 4 est resté intact depuis le début de l'année.
Moi, je trouve que c'est deux trop gros bonhommes pour jouer ensemble.
OK, mais là, attends, moi, je vais ajouter quelque chose. Ouais. Le fait que collectivement, on a beaucoup de difficultés à bien performer, soit offensivement ou défensivement, je parle bien du collectif, là, les trois attaquants avec les deux défenseurs, je pense que là, ça rend les gros défenseurs pas trop mobiles, ça les rend
plus vulnérables.
Ouais. Ils sont vulnérables, on les voit beaucoup. Là. Quand tout le monde est bon, on les voit moins et on voit plus les côtés positifs. Là, ils sont vraiment vulnérables. Moi, je regarde, là, il y a un problème présentement dans le territoire du Canadien. Oui, les attaquants ne viennent pas donner du support aux défenseurs, ça c'est clair. Mais il y a un problème parce qu'on fait plein de choses compliquées présentement. On fait une petite passe du revers, on fait, tu sais, on appelle ça un D2D en arrière, mais tu sais, avec un reverse, on essaie beaucoup de choses individuellement qui ne donnent pas beaucoup de résultats. Moi, je regarde là, Price, Weber, Petrie, Chiarot, ça, c'est 4 leaders de ton équipe et 4 leaders qui en arrachent là, vraiment beaucoup. Moi, j'étais ces gars-là, là, puis je sais qu'ils n'ont pas le droit de se réunir dans une chambre. Là, faites ça en visioconférence, faites n'importe quoi. Là, mais parlez-vous, on fait-tu les choses simples, les gars? Parce que là, c'est compliqué. Écoute, Ben Chiarot, là, il a de l'air de Jeff Petrie par moment, puis c'est tout croche. Tu sais, il est à l'attaque. Chez Weber, il ne sait pas où il va s'en aller. Jeff Petrie, il est mou, il est lent. Que dire de Price? C'est la même chose. Fait que donc, tu sais, le comité en défensive, là, c'est ces 4 gars-là pour moi. Ces 4 gars-là doivent faciliter leur jeu, rendre ça plus simple. Mais c'est tellement compliqué d'être plus simple. Mais en tout cas, s'ils sont capables de trouver ça, je pense qu'on pourra trouver une solution assez rapidement chez les Canadiens.
Écoute, je sais que Weber a marqué 2 buts là, mardi, OK? Mais sérieusement, OK, il y en a une, là, c'est une déviation, puis tout ça. Mais tabarouette, il peut-tu prendre une game sur ses épaules? Il est-tu capable d'arriver sur le power play, puis... Tu sais, 2 bonnes garnottes dans le net comme on avait la...
Ils sont pas capables de s'installer.
Non, mais alors, ça, c'est une autre histoire. On va en parler dans quelques instants. Mais on a besoin que ce gars-là aussi nous en gagne une. On a besoin, à un moment donné, qu'il en plante une coupe dans la bande. On a besoin qu'il en ramasse un puis qu'il ait une coupe de coups sur la marboulette. Le bon vieux Shea Weber, il y a 7-8 ans, ça existe plus.
Il l'a fait mardi.
Ben oui, c'était raison. Mais ça faisait un bout qu'il l'a pas fait. Là.
C'est le gardien derrière lui qui l'a pas suivi puis une coupe d'autres joueurs. Mais, mais c'était ça pour vrai. Mardi, j'ai trouvé que Shea Weber a donné la réponse d'un capitaine, la réponse qu'on pouvait s'attendre d'un meneur. Mais en même temps, c'est sûr que plus les années vont passer, moins il faudra s'attendre à ce genre de performance-là de sa part.
Il en reste des années. Là.
Ah oui, ça...
Et tabarouette, on n'est pas rendu au bout. Là.
Ah non, ça, il n'y a aucun doute.
Et tabarouette.
Mais je veux dire, il va falloir quand même... Ça fait partie de la réalité. Il y a 35 ans, il va falloir ajuster nos attentes par rapport à ça. Je ne pense pas que Zdeno Chara a gagné beaucoup de matchs aux Bruins à lui tout seul dans ses 4 dernières années à Boston. Il avait quand même son rôle. Il avait, il jouait son rôle, tout ça. Mais c'est ça, il ne faut pas nécessairement s'attendre au genre de performance comme il a donné mardi. Ouais, mais
on a un problème.
Les gars, tout ça, on tourne alentour du pot. Là. Honnêtement, tout ça part d'une chose, c'est que Carey Price n'inspire pas confiance.
Ben, on va en parler dans quelques instants de Carey Price.
C'est ça l'histoire, parce que là, on peut parler de long en large, là, mais c'est ça, il n'inspire pas confiance. Il est devant le filet. Les gars commencent à bien jouer, pop! Une zone qui rentre. Là, t'arrives, un autre coup, pop, une autre zone qui rentre. Là, tu fais, mais là, Carey, come on. Un autre match, pouf, non, la même chose.
Puis tu sais, dans son non-verbal, il est-tu nonchalant? Il a tout le temps été de même.
Lâche-moi le non-verbal. Moi, on m'a parlé du verbal, là.
Il n'y a pas de verbal. Va dans le vestiaire du Canadien, écoute-les parler. Dis-moi qu'il n'est pas nonchalant dans son verbal aussi.
Ça ne tente pas, mais au moins, hier, il l'a envoyé sa tribune. Il est obligé de répondre aux questions.
Ah ouais.
Mais tu sais, le gars, puis souvenez-vous, je ne sais pas si on avait eu la chance de s'en parler, mais moi, j'étais là, je me disais, OK, ça va pas bien Carey Price. C'est deux matchs contre Winnipeg, mets-moi ça devant le filet, là. Là, le gars, là, c'est beau, là, tu n'arraches, parfait, garde, on va y aller à la vie, à la mort. Et là, après le match d'hier, je fais, ouais, attends une minute, là, c'est vraiment
c'est ça. Non, écoute, garde ça, là, parce qu'on va parler de Carey Price dans quelques instants. On va faire une petite pause, les gars. On va revenir sur l'avantage numérique, là, qui présentement connaît toutes sortes de difficultés. Bon, on va poursuivre sur Carey Price au retour de 6. Alors, nous voilà de retour. On parlait justement de l'avantage numérique. On va revenir à Carey Price dans quelques instants. Mais les gars, on regarde l'avantage numérique et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans les dernières années. Et moi, là, je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais le fameux jeu avec la passe par en arrière, là, j'ai le goût de me rentrer une fourchette dans l'œil quand je vois ça. Je suis plus capable. Hey, avantage numérique, va-t'en vers l'avant, s'il vous plaît, la passe par en arrière. Là, tu sais, moi, pour moi, un power play, les gars, c'est pas compliqué. C'est de la mathématique.
Écoute ça.
Oh,
t'es incroyable.
Un avantage numérique, les boys, là, c'est mathématique. T'as 120 secondes pour mettre le puck dans le net. Chaque seconde qui passe, c'est une seconde où tu lances pas au filet, c'est une seconde où t'as pas une chance de marquer, c'est une seconde où tu scoreras pas. Il y a peut-être certaines équipes pour qui ça fonctionne, les Oilers avec les Connor McDavid, mais le Canadien en a pas de Connor McDavid. Et cette stratégie-là, moi, elle me rend fou. Hier, là, juste à voir les Jets rentrer dans la ligne bleue puis s'installer en territoire adverse en avantage numérique comme si de rien n'était, et Canadien incapable. Simon-Olivier, je te laisse commencer là-dessus.
Bien, en fait, tu as dit beaucoup de choses, mais ce que tu as dit en dernier par rapport aux Jets, il faut un petit peu comparer des pommes avec des pommes. C'est-à-dire que, oui, le Canadien, en début de saison, c'était le party, tout le kit, puis je pense qu'il y a plusieurs bons joueurs qui font beaucoup de bonnes choses, mais avez-vous vu le top 6 des Jets? Le Canadien, il n'y a pas beaucoup de joueurs du Canadien qui sont sur le top 6 des Jets demain matin s'ils sont échangés à Winnipeg. Là. Ils se sont créés une machine offensive exceptionnelle. Et en plus, en avantage numérique, ils ont Josh Morrissey et Neil Pionk qui peuvent jouer à la pointe. C'est une équipe qui... C'est normal qu'ils soient meilleurs que le Canadien en avantage numérique. Mais maintenant, est-ce que c'est normal qu'ils soient meilleurs à ce point-là? Ben pas du tout. Puis j'étais surpris de la candeur de Jonathan Drouin hier après le match. On sentait vraiment qu'il était écœuré. Puis il y a eu au moins l'honnêteté de se nommer là-dedans aussi que présentement, les avantages numériques du Canadien tuent leur momentum, tuent leur rythme. Il serait mieux s'il n'y en avait pas, finalement.
Bien, si on dit ça depuis des années. On dit ça depuis des années. Les équipes, ils pognent des punitions, c'est à leur avantage.
J'ai l'impression, je me demande...
On peut-tu faire comme au football, tu sais, la fameuse joke, là, on peut-tu faire comme au football et refuser les punitions?
Je suis pas d'accord, Philo. Il y a eu quand même des années, Kurt Muller, quand il était là, l'avantage numérique a très bien performé. Non, mais non.
On recule, là.
Non, non, mais ça. Ben,
Sheldon Surrey, quoi.
Pas depuis que Mahler est revenu, justement. Depuis que Mahler est revenu, ça n'a vraiment pas. Moi, je trouve que sa réputation de maître de l'avantage numérique en a pris un coup. En même temps.
Soyons logiques, il n'y a pas les mêmes outils qu'il y avait, là.
Ben, c'est ça.
Il n'y avait pas les outils, là. Là, tu commençais à avoir des outils un peu pour l'avantage numérique. Ça a commencé quand même assez bien. On était à quoi? Aux alentours de quoi? 20% aux alentours d'efficacité. On était à 80 en désavantage numérique, quelque chose comme ça, en début d'année. Et là, la chaîne débarque. Tu sais, moi, ce que je veux vous dire, les gars, là, c'est que je veux pas protéger l'avantage numérique ou je veux pas dire qu'ils sont bons. Puis dans le fond, non. L'histoire présentement, c'est qu'il y a personne qui va avoir la rondelle pour vrai. Il y a personne qui va avoir la responsabilité. Fait que là, quand t'as quatre joueurs de l'équipe adverse qui t'attend à ligne bleue parce que c'est comme ça que ça marche, pour ça qu'il y a une passe en arrière, c'est qu'on veut rentrer en rapidité dans le territoire adverse. Et en plus, que le gars qui a le puck, il veut pas faire le geste qui va se faire couper, il veut pas la mettre au fond parce qu'il y a personne qui va aller la chercher. C'est ça qui se passe, là.
Mais
il y a personne qui veut
comment on fait pour rentrer.
Il y a personne qui veut faire la gaffe.
Peux-tu m'expliquer comment on fait pour rentrer en vélocité quand on passe par en arrière? Explique-moi ça.
OK, ben là, non, mais attends, je vais t'expliquer. OK, parfait. Donc, ça veut dire, si tu pars derrière ton filet,
oui.
L'équipe adverse se positionne. Habituellement, parfait. Ils vont mettre un joueur qui est devant le gardien de but du Canadien. Mettons, t'as un joueur qui est là, ils vont sortir. Là, le premier joueur va suivre du côté où le défenseur va s'en aller.
Parfait.
OK, parfait. Donc, dans tête de l'avantage numérique du Canadien, on élimine un premier joueur. Fait que donc, lui s'en va là. On passe la rondelle en arrière. Durant ce temps-là, t'as trois joueurs souvent qui vont reculer profondément, qui vont aller se stationner à la ligne bleue ou un pied en avant de la ligne bleue pour créer un genre de mur pour prendre le plus de place possible. Le premier joueur qui a été pris par le Canadien, lui, revient se repositionner également à la ligne bleue, fait qu'on crée un mur. Et c'est pour ça qu'un gars qui rentre en arrière...
On est arrêté, là, à la ligne bleue. Là. On est arrêté, fait qu'on rentre pas en vitesse.
Exactement.
Là.
Non, non, c'est ça. Et les joueurs du Canadien et les joueurs de l'équipe adverse sont arrêtés. Et c'est pour ça que t'amènes un gars en vitesse qui est supposé, lui, bat un gars. S'il bat un gars, d'habitude, vous allez voir, c'est Drouin qui a le puck. Pourquoi? Parce que c'est les gars qui ont le meilleur main ou Suzuki, les gars qui sont capables de déjouer. Et c'est pour ça que ça a été surprenant d'avoir Keke être capable de rentrer comme ça puis avoir possession de la rondelle. Parce que Beaulieu, il a donné un cadeau. Mais t'es supposé de faire ça. Ou si t'arrives pas à déjouer le joueur, t'es supposé de mettre la rondelle, positionner la rondelle en territoire adverse. Et là que t'as un joueur de ton équipe qui part puis qu'on va chercher la rondelle. Mais là, personne va chercher la rondelle.
Non, mais ils sont
et personne
tellement mauvais.
Veut faire le revirement.
Il arrive à la ligne bleue. Le gars qui rentre avec le puck à la ligne bleue, c'est systématique. Le premier défenseur ou attaquant qui est devant lui, il sort le bâton, poup, il poke le puck à chaque fois. À chaque fois.
C'est exactement. C'est
incroyable.
C'est pour ça que je te dis, c'est pas une question d'être mauvais. C'est une question que présentement, personne veut faire la gaffe. Personne ne veut être le responsable du revirement. Personne ne veut faire l'effort aussi pour aller chercher la rondelle. Parce que ça se corrige facilement. Si tu veux pas déjoindre un gars à ligne bleue parce que tu veux pas faire le revirement, mais aller au fond. Mais il y a personne qui veut aller au fond non plus.
Ouais.
Fait que donc, tu vois-tu, là, t'es pris dans une situation où tout le monde attend après tout le monde. Mais c'est ça que ça donne.
Hey, c'est-tu dégonflant, les gars? Non, mais tu regardes ça. Là,
c'est pas. C'était-tu clair, mon explication? C'était trop compliqué, là?
Non, non, c'est. Mais en bout de ligne, ça marche pas. C'est ça la réalité.
C'est clair.
C'est ça.
Puis tu sais, ce que tu dis, chez Rémi, c'est ça. Le problème, c'est que la stratégie de mettre la rondelle dans le fond, c'est qui les meilleurs joueurs du Canadien pour récupérer des rondelles? C'est Dano, c'est les Conan, c'est des joueurs qui ne jouent pas en avantage numérique puis qu'on ne veut pas voir en avantage numérique, évidemment.
C'est Gallagher, c'est Anderson aussi. Gallagher, Tatar, quand il est capable.
C'est ça. Tatar est l'autre nom que j'allais ajouter. Mais bon, Tatar, on le sait, on ne connaît pas sa meilleure saison. Gallagher était. Anderson était blessé hier. Gallagher, effectivement, peut le faire, mais lui non plus, même si l'effort est toujours là, je trouve quand même qu'on le voit pas autant que les années passées. Donc, c'est ça. Je pense que les joueurs dont c'est la force de faire ça, ont peut-être des moments difficiles où ils ne jouent pas en avantage numérique. Okay.
Les gars, on a parlé de chez Weber tantôt, on le sait, c'est 7 quelques millions. Le 7 millions et des poussières pour les 5 prochaines années encore. Là, je regarde Carey Price aller, là, puis on va se le dire, là, à part les playoffs de l'année passée où il a été quand même très bon, on va se le dire, là, ça fait un bon bout qu'il n'a pas été un gardien dominant. À la Patrick Roy, à tous les autres bons gardiens que le Canadien a eu dans le passé, qui changeaient l'allure d'un match. Et là, le plafond salarial, les gars, va rester stable. Hein? Dans les prochaines années, là, on ne s'attend pas à ce que le plafond explose. On regarde le contrat de Carey Price, 10,5 millions en moyenne pour les 5 prochaines années. Et là, là...
Tu veux pas nous suggérer une transaction?
Non, je parle pas de transaction. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, moi, là, c'est tout ce que j'ai dans la tête. J'ai Roberto Luongo au podium qui dit « My contract sucks ». OK? Vous vous souvenez de Roberto Luongo, « My contract sucks ». C'est que là, si ces deux gars-là ne redeviennent pas des joueurs dominants de la Ligue nationale, les gars, on va avoir un problème. Parce qu'on va avoir des boulets. Et peut-être même les deux pires boulets de la Ligue nationale. Parce que c'est des gros montants pour plusieurs années. Et si ces gars-là, comme vous le dites, il ne faut plus s'attendre à des performances, tu sais, c'est plus sur une pente descendante, guys, on va avoir un maudit gros problème.
Moi, personnellement, dans le cas de Carey Price, je le mettrais pas dans la même catégorie chez Weber. Premièrement, 2 ans plus jeune. Deuxièmement, je pense que des gardiens peuvent encore être bons au milieu de la trentaine. Pecorine est resté bon tard jusqu'à tard dans sa carrière. Même Henrik Lundqvist, jusqu'à ce que les Rangers, collectivement, tombent en reconstruction. Henrik Lundqvist est encore capable d'offrir des bonnes performances. Il avait même 35 ans, d'ailleurs, quand il a éliminé le Canadien au premier tour en 2017. Donc, tu sais, je crois pas que de tous les problèmes de Price, des préoccupations de son contrat, je mettrais pas l'âge en ce moment là-dedans. C'est sûr que oui, arrivé en 2024, quand Carey Price va avoir 37 ans, là, oui, c'est sûr là, que le contrat va être lourd, mais d'ici là, je pense que physiquement, il y a quand même encore 2-3 bonnes années à donner. Si sa technique revient à point, si entre les deux oreilles, ça revient, peu importe quel est le problème. Non, c'est ça, exact. Mais je veux dire, à mon avis, c'est pas une question d'âge.
T'sais, si tu en goal 3 bonnes sur 4, il n'y a personne qui va te dire quoi que ce soit, mais là, c'est une bonne sur 4 ou à peu près. Simon Olivier, est-ce que ce contrat-là peut devenir un boulet pour le Canadien?
Bien, la réponse est évidemment oui, dans la mesure où si Carey Price théoriquement, ne se replace pas, ben, ce serait déjà un boulet. Cependant, puis tu le sais, Jérémy, on en a parlé souvent à ce micro-là. Moi, j'ai été longtemps un défenseur de Carey Price, j'en suis encore un. Mais je pense que présentement, ce serait nier l'évidence de dire que Price est le meilleur gardien pour le Canadien à l'heure où on se parle. Je pense que c'est peut-être le moment, je dis pas que c'est le moment de donner le poste de numéro 1 à Jake Allen, puis d'échanger Price, puis de ci, puis là, puis de ça, de dire, le convaincre de sa clause de non-mouvement pour Seattle. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je pense qu'à court terme, Jake Allen donne plus de chances aux Canadiens de gagner. Peut-être que Price, une espèce de moment d'introspection, je ne sais pas comment appeler ça, ça pourrait lui faire du bien. Tu sais, Carey Price,
on a déjà vécu ça.
Ben oui, Carey c'est ça, Price. Ça a déjà été vécu. Puis tu sais, Carey Price, un de ses défauts historiquement, c'est ça, c'est début de saison un peu qui je sais pas comment dire autrement. Je regarde la saison 2018-2019 au cours de laquelle le Canadien a quand même manqué des séries parce que c'est arrivé énormément dans les dernières années. À partir du 1er janvier, Carey Price, c'est 20 victoires en 35 matchs, 928 de pourcentage d'arrêt, 2.20 la moyenne de buts alloués. C'est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale il n'y a que 2 ans. En série, c'était le meilleur gardien national. Le Canadien est éliminé. Price donnait moins de 2 buts par match. Alors, le gardien de but dominant, il est là. Il est dans Carey Price. C'est pas celui que Price nous montre présentement. Donc, il y a lieu d'agir. Puis agir, c'est donner, je pense, le filet pour l'instant à Jake Allen pour peut-être 2, peut-être 3 matchs pour donner une chance à l'équipe de se relancer ensemble. Mais moi, je pense que Carey Price a encore énormément de bons hockey à donner. Ouais. Et l'histoire du contrat, c'est une vue de l'esprit, le contrat, dans l'idée que oui, c'est très concret, 10 millions, ça reste salarial. Mais si Price était aussi bon qu'il l'a déjà été, tu sais, l'été passé, personne ne parlait de son contrat à Carey Price quand il a fait gagner le Canadien contre les Pingouins.
Encore une fois,
N'importe quel joueur du Canadien, puis je vais finir là-dessus, n'importe quel joueur du Canadien gagnerait 10 millions, ben la semaine où il va pas bien, on dirait, ben c'est 10 millions au vidange, puis c'est un boulet. Ouais. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut un peu en revenir.
Maxime Paypocket vient de sortir un article là, qui titrait le 9 novembre 2018, Carey Price doit voir un psychologue. Là, on est 3 ans plus tard, là, puis tu sais, c'est comme... Je sais pas, les gars, là, moi, à part là, les séries de l'année passée, je me souviens pas, il faut reculer aux années où il a gagné tous les trophées pour se dire, il a été vraiment, vraiment très bon cette année-là, il a fait une différence.
Ben oui, mais il y avait pas de...
2 mois après cet article-là, l'hiver 2019, Price est un gardien dominant. Aussi simple que ça, ils ont viré la situation.
Bon, Jérémy, t'as commencé à en parler
Attends, là, ouais. Ben, moi, je peux-tu parler de Carey Price un peu? Là?
Oui, c'est ça. Je t'amenais là-dessus. Là. Mais vas-y, OK, je te laisse poursuivre.
OK. Bon, là, je pense qu'il faut juste être plus intelligent que ce qui se passe chez les Canadiens. Je pense que, sincèrement, je pense que dans le cas de Carey Price, là, si on était au même niveau que l'électricité négative qu'il y a dans le vestiaire, sincèrement, on serait en train de dire non, gars, même on va racheter son contrat, on se calme le pompon. On se calme le pompon.
Ben, c'est ben trop
je vais faire référence à Martin. Attends, ben oui, ben là. Je vais faire référence à... Tu me fais halluciner, toi, Jérémy, avec ça, l'histoire de l'argent. Là, tu me fais halluciner. Là... Je fais référence à Martin Leclerc. OK, écoute, Martin Leclerc de Radio-Canada a sorti des chiffres qui, pour moi, résument un peu ce qu'on pense. C'est du moins la situation réelle. Je te dis pas qu'il y a eu que des bons moments. Il y a eu des moments qui sont difficiles, mais il y a eu aussi des moments où Price a fait le boulot. De 2010 à 2019, Carey Price est la deuxième moyenne en pourcentage d'efficacité de la Ligue nationale derrière Tuukka Rask. Il est à 919, OK? Et en 2019, Price avait 48 départs de plus que Tuukka Rask. Connaissant le club du Canadien, connaissant le club des Bruins, ça vous dit ce que pour moi ça veut dire le 919 de pourcentage d'efficacité. De 2010 à 2019, Price a le quatrième plus haut total de victoires, c'est 280. Fleury étant le premier, t'avais Pekka-Rinne le deuxième et le troisième, c'était Lundqvist. Fait que donc, pensez une chose, là. Ce club-là du Canadien a été croche pas mal plus souvent qu'autrement.
C'est sûr.
Et vous avez eu un gardien de but qui a été capable de maintenir l'équipe à flot. Des fois, on fait série, des fois, on fait pas une série. Là, présentement, la chaîne, elle débarque. Fait que donc, avant de dire, faut prendre Price, puis on rachète le contrat, on le met au balotage, on l'échange, on l'envoie à Seattle. Attendez une minute, là. C'est un bon gardien qui est perdu présentement. Clairement perdu, ouais. Mais c'est un bon gardien de but.
Simon-Olivier, je vais compléter là-dessus, là, mais Simon-Olivier, tu as commencé tout à l'heure à parler de ça. Est-ce qu'on est arrivé au moment où, pour le bien de l'équipe, faut donner un maximum de départ à Jake Allen tant et aussi longtemps que ce gars-là continue de nous donner les performances qu'il nous donne?
Je pense pas un maximum dans la mesure où il faut qu'il y ait quand même un partage, parce que ce qui était vrai dans pas surtaxer Price, on ne doit pas recommencer à surtaxer Allen. Mais je pense que présentement, pour la prochaine semaine ou pour les prochaines, mettons 10 jours, je pense qu'Allen devrait, oui, effectivement, avoir une coupe de départ pour au moins le temps que l'équipe corrige ses autres lacunes, si au moins devant le filet on pouvait gagner un peu de confiance. Et j'ai pas de doute que les joueurs vont donner le même effort à Carey Price si la machine fonctionne mieux en avant.
Oui, ben c'est 100% d'accord avec toi. Moi, c'est simplement dans le choix de mots que je vais être insistant. Je veux juste qu'on appelle pas ça une pause, parce que Carey Price a eu une pause comme le reste de l'équipe la semaine dernière, une pause d'une semaine. Ils ont été sur la glace trois fois sur les cinq jours d'entraînement disponibles. Il y en a eu du temps pour faire un reset, pour travailler sa technique, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, appelons pas ça une pause, mais effectivement, ne serait-ce que, je pense, comme premier bénéfice pour simplement que l'équipe reprenne confiance, que les défenseurs... Tu sais, je veux dire, c'est juste que c'est lourd pour les défenseurs. Si la moindre erreur que tu fais, tu te retournes, ça finit dans ton filet. Je pense que... Tu sais, je pense qu'en jouant avec Allen, comme il joue en ce moment, ben c'est sûr que psychologiquement, ça aiderait beaucoup, beaucoup de monde dans cette équipe-là.
Écoute, Jérémy, tu as sorti des bonnes statistiques tout à l'heure pour nous parler justement du passé de Carey Price, mais la réalité, c'est ça, c'est qu'on parle du passé. Tu sais, je pense que dans tous les sports, là, à un moment donné, là, tu donnes un contrat. Contrat de 8 ans.
Quoi?
OK? Écoute ça. Ah, ben là, je sais pas, j'en ai pas de solution, mais je vais te dire ce qu'il y en est. Tu donnes un contrat de 8 ans. OK? Parfait. Un joueur performant ou un joueur élite ou un joueur étoile, tu payes pour les performances. OK? On paye pour avoir des joueurs de ce niveau-là. Quand le joueur atteint son sommet, là, puis là, t'espères que dans le contrat de 8 ans, le sommet, là, il l'atteint dans 6e année. Puis si les deux dernières, ben, il y a un ralentissement, t'es pas si payé parce que t'en as eu 6 bonnes. Mais là, c'est pas ça, là, présentement.
Ouais, mais le système hockey comme ça.
Mais tu payes pas pour des performances présentement, tu payes pour des noms.
Ben, Carey Price pour les Shea performances Weber, passées.
C'est ça.
Mais c'est
des noms.
Mais c'est le hockey en général qui est fait comme ça. Puis je veux dire, il y a plusieurs équipes qui sont prises avec des contrats comme ça.
C'est ce que tu veux éviter, par contre.
Ben c'est ça. Ben tout à fait. C'est ce que tu évites. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui s'en tirent et qui n'ont pas de ces contrats-là dans les pattes? Il n'y en a pas beaucoup. Les Jets de Winnipeg, justement, c'en est une. Mais encore là, Brian Little, ça serait peut-être un de ces contrats-là, tu sais, à 5,3 millions. Là, en ce moment, il est blessé. Puis il ne compte pas sur le plafond salarial. Mais s'il était là, ça en serait un probablement qui ferait mal aux Jets en ce moment. Mais, il n'est pas là, ils peuvent l'enlever.
Comme je dis,
mais c'est... presque chaque équipe a ça. Puis c'est le système de la LNH et de la convention collective qui fait en sorte qu'on est pris avec
le
ça.
Le problème, c'est que c'est les deux joueurs les mieux payés du Canadien.
Ben oui.
Deux des trois plus vieux
c'est quoi, Philo?
De l'équipe.
C'est quoi ton point? Qu'est-ce que
mon point, là, c'est que... quand tu payes pour des performances, il n'y a pas de problème. Quand tu payes pour le nom, parce que Carey Price et Shea Weber, présentement, dans la Ligue nationale, ils ont un nom. Donc, eux autres, faut que tu les payes. Bien là, tu n'es pas gagnant là-dedans.
OK. Fait que donc, ton point est quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Tu veux qu'ils échangent? Tu veux qu'ils enlèvent? Que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu ferais, toi?
Non, mais
DG,
tu peux plus rien faire. Tu t'es déjà attaché les mains avant, là.
Parfait.
Tu peux plus rien faire, là.
Un coup que t'as pris, tu sais que t'es pris, là. T'es mains attachées, comme tu le dis, là. Tu peux plus rien faire, que t'es prêt avec les contrats. Tu fais quoi? Parce qu'il faut quand même que tu gagnes des matchs. Tu fais quoi?
My contract sucks. C'est ça.
Okay.
Clause de non-échange. Clause de non-échange. Puis, regarde, c'est ça. T'es pogné avec.
Fait que toi, là, dans ta vision du hockey, tu dis là, moi, je regarde Carey Price, il est vraiment mauvais. Avant que je t'amène des chiffres, tu pensais qu'il avait été mauvais pour les 10 dernières années. Et là, tu arrives, puis tu dis, bon, Carey Price, t'es mauvais, là, t'es perdu. Une journée, t'as des pattes rouges, une journée, t'as des pattes blanches. À un moment donné, t'as un casse avec un cerveau, à un moment donné, t'as un casse avec du Canadien, t'es perdu raide. Moi, là, je voudrais. Tu peux-tu me lèves ta clause de non-échange, m'a t'échanger. C'est ça que tu voudrais faire?
Non, mais il n'y a pas de.
Non, mais attends, on va aller plus loin. Si c'est ça que tu veux faire, parfait. Tu pognes, tu l'échanges. Tu viens de sauver sur ta masse salariale, pas de problème. Tu vas aller chercher un attaquant, un super attaquant, peut-être à 7-8 millions par année. Ça demeure que tu as Jake Allen qui est là, puis ça demeure que c'est Jake Allen qui est là. Fait que ça veut dire, si Jake Allen, lui aussi, casse un moment donné, tu fais quoi?
Non, mais là, je te le dis, là, si là, c'est pour être Carey Price à 10,5 millions sur le banc comme numéro 2, là, on va avoir un maudit problème.
Parce que ça ne durera pas éternellement.
Puis, Jerry, je sais que tu me reproches souvent les calculs mathématiques puis les chiffres, mais va voir Marc Bergevin, là, puis demande-y pour lui à quel point c'est important les chiffres puis les mathématiques. Il va dire, c'est tellement important que je suis prêt à mettre Byron au balotage pour économiser 40 000 $ dans une semaine. C'est ça?
Écoute, Jérémy, on va aller voir Marc Bergevin puis poser une autre question. Est-ce que tu as l'intention d'échanger Carey Price? La réponse arrive avec non.
Oui.
C'est aussi simple que ça, puis je vais aller plus loin que ça. C'est impossible de changer Carey Price.
Mais c'est ça.
Je veux dire, même si c'était l'intention du Canadien, et clairement, ça ne l'est pas, et je pense pas que c'est une bonne chose à faire, mais même si on voulait l'échanger, dans le contexte actuel, c'est impossible que le Canadien fasse un bon deal en échangeant Carey Price.
Non, je sais.
Okay. Juste l'échanger.
Juste trouver quelqu'un pour danser.
Ben, c'est ça, je t'ai dit.
Une destination qui va marcher avec Price, parce qu'il faut qu'il laisse une clause de non-mouvement, une équipe qui trouve 10 millions sur son plafond salarial. Il y a, tu sais, déjà trouver une place, avoir un retour, il n'y a aucune chance que ça finisse bien. Tu sais, beaucoup de monde parle, et toi-même, Jérémy, de Seattle. Même si ça arrivait, imagine, ton joueur de concession, autour duquel tu as tout construit depuis 10 ans, tu le perds pour rien.
Rien.
C'est effrayant, là. Rien. Tu sais, c'est pas vrai que la relève est prête, là. Kaden Primeau, c'est pas un gars qui est prêt pour garder 60 matchs en Ligue nationale. Mm. Fait que, tu sais, Carey Price, présentement, ben oui, il faut que ça se replace, mais c'est la solution. Je veux dire, il y en a une solution à très court terme. Jake Allen est là, c'est une bonne chose.
Ouais.
Mais Carey Price, à mes yeux, est encore le gardien partant et dans un avenir à moyen terme pour le Canadien. Il n'y a aucun doute pour moi.
Mais savez-vous quoi? Il y a une valeur à se débarrasser d'un contrat. Tu sais, quand on dit on l'échange pour rien, oui, mais le montant que tu récupères sur la masse, il y a une valeur là. Donc,
c'est pas Brian Bickle que tu échanges, c'est Carey Price.
OK.
Je vais ajouter quelque chose. Oui. Je vais ajouter quelque chose. Moi, là, présentement, Philo, ça fait 2-3 fois que tu arrives avec ça, l'histoire des chiffres avec Carey Price.
Ouais.
Là, tu as rajouté Shea Weber dans l'équation.
Ouais.
Moi, je veux juste dire, dans la situation qui nous préoccupe présentement, pour moi, là, dans la situation qui nous préoccupe présentement, c'est pas une question de masse salariale. Présentement, c'est une question d'un humain qui est perdu. OK? L'humain, Carey Price, là, il est perdu. Il n'arrive pas à faire sa job. Ce qu'il est supposé de faire, il ne le fait pas. Et là, la journée d'après, on se disait, bon, mais il ne l'a pas fait hier, il va le faire demain. La réponse, c'est qu'il ne le fait pas le lendemain non plus. Puis là, le surlendemain, il ne le fait pas non plus. Fait qu'avant de parler de contrat, d'argent, de savoir qui va être la gardienne de but numéro 1 dans 2 ans, je pense qu'il y a un problème à régler dans l'immédiat qui s'appelle comment tu fais pour pogner ton joueur, ton plus gros asset dans ton club, comment tu fais pour que ça fonctionne? C'est ça, le plus grave problème, c'est ça pour moi.
C'est arrivé trop souvent, dans les 10 dernières années que tu m'as mentionné, qu'on s'est dit... Carey n'est pas dans son assiette pour être le meilleur joueur et le joueur le mieux payé de l'équipe. En tout cas, c'est mon opinion. On s'arrête le temps d'une pause.
T'as raison, c'est arrivé souvent.
On s'arrête le temps d'une pause, les gars. On va compléter sur le Canadien et aussi on aura un autre sujet ailleurs dans la Ligue nationale. de retour, les gars. Et bon, hier, c'était le premier match de Dominique Ducharme. Bien sûr, il y en aura un deuxième samedi. Et je sais qu'il est encore très tôt. Et c'est très difficile d'analyser ce qui va arriver chez le Canadien. Mais j'aimerais vous entendre sur les possibilités de voir Dominique Ducharme poursuivre avec le Canadien au-delà de cette année. On lui a donné l'étiquette d'entraîneur par intérim. Je pense que l'intention du Canadien, c'est d'espérer que tout se passe bien et qu'on puisse le renouveler. Je pense pas que présentement l'idée, c'est il va finir l'année puis après ça, on va en mettre un autre. Mais quelles sont les chances de voir Dominique Ducharme? Est-ce qu'on va lui donner une véritable chance pour qu'il puisse diriger cette équipe-là pendant plusieurs années?
Moi, je pense que les chances sont relativement bonnes. On met un intérim et c'est très prudent de le faire parce que je pense que l'avenir de Marc Bergevin aussi va être déterminé dans les prochains mois. Marc Bergevin aussi est en dernière année de contrat. Marc Bergevin joue gros cette année. Il a dépassé tout l'argent que son boss, tout le budget que son boss lui a donné. C'est sûr que son boss s'attend à des résultats. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est tout à fait normal et prévisible que Ducharme ait le titre d'intérim. Cela dit, si ça va bien, je vois pas pourquoi il resterait pas. Et si ça va mal et que Jeff Molson décide de mettre Marc Bergevin dehors,
ça change la donne.
Mais en même temps, le nouveau DG qui arrive, tu as Dominique Ducharme comme entraîneur, qui est un entraîneur qui est dans les rangs professionnels, qui est dans la Ligue nationale depuis 2 ans et demi, qui a eu du succès dans le junior, qui a une bonne mentalité, qui est apprécié, qui est respecté. Donc, c'est pas mauvais comme point de départ. Puis, je veux dire, l'éventuel nouveau DG pourrait très bien arriver et dire, correct, je vais continuer avec Dominique Ducharme. De toute façon, on le sait, je veux dire, par la force des choses à Montréal, ne serait-ce que pour la question de la langue, ça limite quand même le nombre de candidats aussi. Il y a d'autres bons candidats francophones, mais Dominique Ducharme fait certainement partie de ces francophones-là qui ont un bel avenir devant eux.
Ce qui est plate un peu, les gars, pour Dominique Ducharme, c'est que la barre est haute cette année. T'sais, je veux dire, les gens veulent voir le Canadien gagner et je veux dire, ils ont quand même une bonne équipe entre les mains et si ça ne fonctionne pas, c'est quasiment comme... J'ai comme l'impression que c'est écrit dans le ciel qu'ils vont se dire, il faut mettre quelqu'un d'autre, quelqu'un d'expérience. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Quelqu'un d'expérience, il y en avait un, c'était Claude Julien. Si Claude Julien n'incarnait pas l'expérience, je ne sais pas qui l'incarne, à part Lou Lamoriello, mais c'est un petit peu, d'une certaine manière, un cadeau empoisonné dont hérite Charles, dans la mesure où sa job est un peu accrochée au succès de l'équipe, dans le sens que il pourrait devenir celui qui n'a pas réussi à replacer le bateau, sauf que à un moment donné, quand le bateau coule, est-ce qu'on va blâmer le capitaine de ne pas l'amener à bon port? C'est une drôle de situation, mais je sais pas où je lisais ça cette semaine. Je sais pas si c'est un des nombreux textes d'opinion qui a été publié sur le sujet. On se plaint donc souvent qu'on avait des bons coachs dans notre cours et qu'ils sont partis ailleurs, qu'on les a pas considérés, que le Canadien ne donne pas des chances et ci et ça. Dominique Ducharme a gagné partout. C'était le prochain aux yeux d'à peu près tout le monde. Ce gars-là mérite assurément sa chance et au moins de se faire valoir. Et je lui souhaite honnêtement que ça poursuive après cette saison parce que il aurait été victime d'un très malheureux concours de circonstances si sa première expérience en Ligue nationale ça dure seulement 3 mois.
Oui. Jérémy, là-dessus?
Écoute, j'ai l'impression que tout le monde est en situation post-traumatique. Notre vision est basée sur le Canadien qui n'a pas fait les séries 3 fois dans les 5 dernières années ou le Canadien qui a perdu 2 séquences de 8 matchs l'année passée. Puis là, on s'imagine que Dominique Ducharme arrive dans cette situation-là avec l'équipe qu'il avait auparavant. Excusez-moi, là, quand on parle d'un cadeau empoisonné, là, il y a un bon club de hockey dans les mains. Là. Il y a des bons joueurs. Marc Bergevin a fait une bonne job pour amener un bon club de hockey. Le club, présentement, marche pas, mais c'est un bon club de hockey. Fait que moi, je vois l'opportunité pour Dominique Ducharme plutôt du côté en disant, hey, regarde, il y a un bon club, il faut remettre ça ensemble, puis on repart. Puis le pire dans tout ça, c'est que le gros de la job, c'est pas lui qui a à le faire. C'est son club en tant que tel. C'est les joueurs qui sont en place. Fait que donc, lui, il est là pour aider ces joueurs-là à trouver les solutions et que collectivement, il retrouve la qualité de club qu'il y avait à l'époque, là, en début d'année. Fait que moi, je pense que c'est un défi, un gros défi parce que le calendrier est réduit, mais c'est loin d'être un cadeau empoisonné. Si ce gars-là arrive, puis je l'ai dit tantôt, si ce gars-là arrive à replacer ce club-là écoute, ça va être un demi-dieu, là. Mm. Ça va être un demi-dieu. Puis on va regarder les joueurs du Canadien comme étant mon Dieu Seigneur. Puis tout le monde va parler de l'effet Dominique Ducharme, mais tu sais, c'est collectivement, c'est lui et les joueurs. On fait, tu sais, on fait un gros plot de Dominique Ducharme, mais les joueurs, là, il y a des gars là-dedans qu'il faut qu'ils se replacent. Ça n'a rien à voir avec le coach, là. Il y a des gars d'expérience. Marc Bergevin était chercher des gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Il disait, hey, on amène des gars qui ont gagné la Coupe Stanley. OK, fine, parfait. Mais show me the money maintenant. Montre-moi ton leadership. Montre-moi comment ça marche quand ça va pas bien. C'est facile d'avoir du leadership quand ça va bien, mais quand ça va mal, un autre paire de manches, là.
Bon, dernier sujet avant de passer à ce qui se passe chez les Sabres de Buffalo. Selon vous, les gars, puis là, je fais une rétrospective, là, je reviens en arrière, mais j'ai comme l'impression, puis je m'inclus là-dedans, qu'on s'est fait un petit peu avoir par le tournoi estival où le Canadien a joué des matchs éliminatoires. Ils ont quand même bien paru, il faut le mentionner. Carey Price avait bien paru. Les jeunes aussi, Suzuki, Kotkaniemi et tout ça. Et moi, j'étais convaincu que le move que le Canadien faisait cet automne était le bon move. Quand t'ajoutes des gars comme Toffoli, comme Anderson à ton équipe, t'ajoutes la profondeur avec Edmondson et tout ça, je me suis dit, moi j'en ai suffisamment vu l'année passée dans le tournoi estival pour me dire, tu sais, je pense que cette équipe-là, si on ajoute 2-3 morceaux, ils vont être dans une bonne situation. Et peut-être que, puis j'écoutais Mario Langlois en parler hier, et peut-être que s'il n'y a pas de tournoi estival, ou peut-être si on n'ajoute pas les équipes, peut-être que les Canadiens ne font pas les séries, peut-être que Claude Julien est congédié à la fin de l'année, ou peut-être même Marc Bergevin est congédié à la fin de l'année. À quel point ce tournoi estival-là a tout changé chez le Canadien?
Bien, ça a changé, mais faut reconnaître quand même ce que le Canadien a accompli. Je veux dire, c'est pas... oui, c'est un court échantillon. En même temps, t'as quand même éliminé relativement facilement les Penguins de Pittsburgh. T'as quand même tenu tête aux Flyers de Philadelphie. C'est pas... On peut pas non plus... tout jeté par la fenêtre, ce qui a été accompli cet été sous prétexte que c'était un tournoi de 10 matchs dans des circonstances particulières. L'équipe a montré des choses. Il y a des joueurs qui ont montré de la croissance. Est-ce qu'individuellement, il y a des choses qu'on a vues qui tenaient pas la route? Ça se peut. Quand je parle d'individuellement, je veux dire, par exemple, la progression de Kotkaniemi, qui, bon, je pense qu'il a toujours pas retrouvé le niveau de jeu qu'il avait montré cet été. Donc ça, est-ce que c'est une chose? Oui. En même temps, dans son cas, à l'âge qu'il a, je veux dire, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour revenir à ce qui était. Est-ce que ce qu'il appelait le fameux Big Three, ce qu'on appelait le Big Three à l'été, bon, qui nous faisait tous rire, ça, est-ce que ça fait partie un peu des illusions peut-être? En même temps, Jeff Petrie, je pense que lui, clairement, oui, il a sa place là-dedans, les deux
parce
autres.
Parce que les gars, je veux dire, toutes les équipes de la Ligue nationale, même les pires, sont capables de connaître une bonne séquence de 10 matchs ou à peu près. Puis c'était à peu près ça, là, l'année passée, qu'on a joué là, une dizaine,
exactement 10 matchs.
Une dizaine de matchs, tu sais. Donc, ça se peut que ce moment-là, c'était une très bonne période sur 10 matchs, mais que finalement,
comme
ça cachait...
les 10 premiers matchs de l'année.
C'est ça. Ça cachait bien des choses qu'on avait peut-être oubliées de la saison précédente. Et là, on revoit plusieurs de ces défauts-là ressortir et on se rend compte que l'équipe est peut-être pas aussi bonne qu'on le pensait. Simon-Olivier, là-dessus?
Bien, c'est parce qu'il y a je pense qu'on a une mémoire sélective. Des fois, tu sais, on dit ça cachait des choses. Tu sais, la troisième paire en série, c'était Xavier Ouellet et Victor Mété. Là. C'était pas, il était pas caché, il était là. Tu sais, on le savait, là. C'était pas un secret pour personne. Tu sais, Dale Weiss n'a pas joué beaucoup, mais il était encore dans la formation du Canadien. Alex Belzile a joué en série. Tu sais, les lacunes, elles étaient là. La machine a fonctionné grandement, puis je suis désolé de te le dire, grâce à Carey Price. Mais, Pardon?
Ça, on le reconnaît. Il a connu bonne série.
Je comprends, mais oui, peut-être qu'il y a eu certaines évaluations qui ont été un peu faussées. Guillaume donnait l'exemple de Kotkaniemi, puis c'est pertinent, mais tu sais, je sais pas quoi conclure de tout ça, parce que j'ai l'impression qu'une journée, on peut dire, oh, ben, l'évaluation était la bonne parce que le Canadien a fait les bons ajouts, puis va bien. Puis le lendemain, on peut dire, ah, oh, ben là, on s'est bien trop emballé. Cette équipe-là n'avait pas une si bonne équipe que ça. Fait on dirait que je sais pas quelle valeur donner, moi, aux séries de l'année passée, auxquelles le Canadien aurait même pas dû accéder si la saison n'avait pas été arrêtée. Fait je pense qu'il faut le prendre pour ce que c'est-à-dire un cadeau pour les jeunes joueurs de gagner l'expérience, un cadeau pour Price de se rebâtir une confiance visiblement momentanément. Et après ça, je pense pas nécessairement qu'il faut que ce soit une base de travail pour tout ce qui va suivre.
Ouais, ben écoute, tout à l'heure, on parlait de Carey Price, Jérémy, on vient de le mentionner, il a connu de très bonnes séries. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai été convaincu que l'arrivée de Jake Allen allait être bonne, parce que je me suis dit, Je pense que Carey Price nous a démontré que quand il n'est pas à bout de souffle, quand il n'est pas utilisé 3-4 fois par semaine, il peut faire une grosse différence. Donc, moi aussi, je me suis fait un peu avoir là-dedans. Là. Juste, je sais pas si tu veux renchérir là-dessus.
Oui, mais en fait, ce qu'il faut, moi, selon moi, mon point de vue, ce qu'il faut penser, c'est pas tant savoir si on s'est fait avoir, si c'était le vrai club, si c'était pas le vrai club. Je veux juste mentionner que le Canadien s'est amené en série, en tournoi estival l'an passé, de chance, vous avez raison en disant ça, de chance, mais avec pas de club aussi. Parce que avec pas de POC, avec pas de casse et avec pas de club. Parce que à la date limite des transactions, on a échangé Kovalchuk, on a échangé Nate Thompson, on a échangé Nick Cousin parce qu'on pensait pas s'en aller dans les séries. Fait qu'on est arrivé avec des. Il n'y a pas de Bobby Orr là-dedans. Là. On a quand même enlevé des éléments qu'on considérait quand même assez importants chez les Canadiens. Fait que donc, on s'est présenté là. On a eu une bonne performance. Jérémy, tu dis ça arrive à tout le monde de connaître des bonnes séquences. Je vais dire parfait. Moi, j'ai pas de... ça, c'est vrai que tu as raison. Ça peut arriver que tu connaisses une bonne séquence. Maintenant, savoir, est-ce qu'on était floué ou non? La seule chose que je tire de positif, moi, de ce tournoi-là, c'est que ça a amené Josh Anderson, ça a amené Toffoli, mais ça a amené le réveil de Marc Bergevin pour dire, OK, c'est là que ça se passe, ma dernière année de contrat aussi. Ah ouais, go, let's go, il faut qu'on rouvre la machine. Et pour moi, ça, c'est un plus qui va faire du bien aux Canadiens au courant des prochaines années.
Bon, on a un seul sujet ailleurs dans la Ligue nationale parce qu'on avait tellement de matériel sur les Canadiens. Vous voyez, là, on arrive à presque une heure de contenu aujourd'hui, là, exceptionnellement. Mais il faut parler un petit peu de la situation de Jeff Skinner à Buffalo parce que quand j'ai allumé hier que c'était un troisième match consécutif pour lui dans les estrades, là, son agent est sorti. Il n'est pas sorti, mais il s'en mêle. Et on se demande, mais coudonc, qu'est-ce qui se passe avec un gars comme Jeff Skinner qui vient de signer un contrat de 8 ans pour 72 millions de dollars? Il n'en est qu'à sa deuxième saison dans ce long contrat. Il touche 9 millions de dollars par saison. Il a 28 ans, donc c'est pas comme si il en a 37 ou quoi que ce soit. Et les Sabres de Buffalo, me semble, ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent avoir au moment où on se parle. Et là, c'est Jeff Skinner dans les estrades, trois matchs consécutifs. Une transaction, peux-tu faire une transaction avec eux autres?
non, il y a des chances de problème.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est surprenant. Non, je veux dire, Skinner a pas une mauvaise réputation.
C'est sûr que historiquement, c'est un joueur, on dirait, qui a eu tendance à fonctionner une année sur deux. Et justement, il y a deux ans, il en avait quand même marqué 40. Tu l'as dit, il y a 28 ans. Regarde, c'est très dur à dire de l'extérieur. En plus, on voit pas jouer les Sabres directement dans notre cour. Mais je pense que les Sabres ne devraient pas paniquer avec ça. Ils ont des grosses décisions en plus à venir avec Taylor Hall, qui est là pour une seule année, avec Jack Eichel, dont on se demande tout le temps, on dirait, dès que ça va mal à Buffalo, on se demande s'il veut s'en aller. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent bouger, puis Ralph Kruger, l'entraîneur-chef aussi, on va voir combien de temps va durer son mandat actuel. Donc, tu sais, il y a beaucoup de ce qu'il dit, tu sais, c'est une expression que Marc Bergevin utilise souvent, mais tu sais, beaucoup de pièces dans les airs.
Flottantes.
De morceaux qui flottent, exact. Donc, c'est ça qui se passe à Buffalo en ce moment, mais je pense vraiment pas qu'avec 28 ans et deux ans après avoir marqué 40 buts en une saison. Je pense pas que Jeff Skinner soit un joueur fini. Je pense simplement qu'il y a un climat qui est très, très malsain à Buffalo en raison de toute cette incertitude puis en raison du fait que cette organisation-là, en général, depuis 10 ans, depuis en fait que Terry Pegula a acheté, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui tournent pas rond là, à Buffalo.
Oui, définitivement. Voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus, les gars?
J'ai juste un petit truc. Tu évoquais son contrat. À la fin de la saison 2018-2019, Jeff Skinner va devenir agent libre. Il vient de marquer 40 buts. On n'a pas le choix de lui donner ce contrat-là. C'est-à-dire que, tu sais, justement, Jack Eichel espère de l'aide depuis son entrée dans la Ligue nationale. Mm-hmm. On lui trouve un marqueur de 40 buts qui est encore un jeune joueur, qui a encore beaucoup de minages devant lui, parce qu'il a commencé tellement jeune dans la Ligue nationale. On n'a pas le choix de lui donner un contrat à long terme. Et je pense que j'avais entendu dans un podcast à l'époque que son 9 millions par année, c'est la prime Buffalo. C'est-à-dire que Buffalo n'a aucun pouvoir d'attraction. Ouais. Bon, on parle souvent comment c'est difficile d'avoir des bons joueurs à Montréal, là, mais Buffalo n'a pas de pouvoir d'attraction pour un club pour les joueurs élites de la Ligue nationale depuis
quelques
années.
Donc, faut que tu payes plus.
On a surpayé Kyle Okposo. Taylor Hall a eu une somme astronomique pour une seule saison, un drôle de contrat. Alors, Jeff Skinner, on s'est retrouvé à dire, bon, mais on a entre les mains un marqueur de 30 à 40 buts. donnons-lui de l'argent, gardons-le. Et comme a dit Guillaume, je pense qu'il y a encore beaucoup de bons hockey à donner. Ça ne peut pas ne pas se replacer. Puis c'en est un autre qui serait très, très difficile à échanger avec ce montant-là. Fait
ben oui.
On n'a comme pas le choix de jouer à wait and see de son côté à Buffalo.
En tout cas, tu veux dire, un gars comme Jeff Skinner, Jérémy, qui joue un rôle de checker, là, tu sais, c'est... À 9 millions, là, maudite affaire, ça n'a pas de bon sens. Là.
Je me demande s'il y a un podcast à Buffalo qui sont en train de chioler du contrat de Jeff Skinner en disant «
Voyons donc, ça n'a pas d'allure dans ma salariale, qu'est-ce qu'ils font là? »
Non, en fait, ils n'en parlent pas des Sabres, ils parlent des Bills.
Ils parlent
de
des Bills, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils parlent encore de la défaite en demi-finale dans les séries de la NFL. Ouais, exactement. Bon, ben c'est tout, les gars. Et on a fait le tour du sujet, je crois. Disons qu'on s'est concentré beaucoup sur le Canadien aujourd'hui, mais merci d'avoir été là. Merci encore de votre énergie, de votre enthousiasme. On vous souhaite un bon week-end. Le Canadien qui reprend le collier samedi soir à 22h. Hein, match contre les Jets de Winnipeg. Émission d'avant-match à partir de 21h ici sur le réseau Cogeco. Donc, merci d'avoir été là au 98.5 ou ailleurs, là, dépendant où vous êtes au Québec. Jérémy Rainville, Simon-Olivier Lorange et Guillaume Lefrançois. Merci aussi à Maxime P. Paquet à la mise en onde. Salut tout le monde. On se retrouve lundi. Bye-bye.